propos d'usine, c'est des paroles de comédiens, de danseurs, metteurs en scène, chanteurs et autres tisseurs de récits. Des histoires pour prolonger l'histoire d'un spectacle, un temps suspendu entre deux battements de temps, pour partager des passions. Propos d'usine, c'est des enregistrements réalisés dans le cadre du théâtre de l'usine à Saint-Céré. Et pour retrouver Propos d'usine, écoutez les rencontres impromptues et mots partagés, une série d'émissions culturelles proposées par Michel Brissot, diffusée le samedi à midi par Antenne Doc.
Cet enregistrement n'a pu être réalisé que par téléphone. La qualité du son peut parfois présenter quelques altérations. Voilà, bien nous rencontrons aujourd'hui Héloïse Luzzatti, qui est violoncelliste. Mais elle n'est pas que violoncelliste, elle a aussi d'autres cordes à son arc, et son arc est très tendu pour répondre à des attentes et des pertes d'intérêt qui se sont faites au nom de l'histoire. Alors, vous avez été brillamment reçu au Collège Royal de Musique de Londres, au CNSLDP à Paris, et finalement, vous avez choisi Paris comme lieu d'apprentissage.
Tout à fait.
Alors, vous avez été passionné par la musique de chambre, déjà un esprit collectif qui vous permet de partager votre savoir, vos talents avec d'autres, et non pas simplement comme seul interprète. Mais vous nous direz si aussi l'expression en tant qu'interprète est quelque chose qui vous convient. Vous avez fréquenté des grands interprètes comme Philippe Scrimal, Tarot, Chamaillou, Mangova et ainsi de suite. Et à partir de là, vous avez été aussi invité chez les uns, chez les autres. Vous êtes régulièrement invité par l'Orchestre de Paris ou par l'Orchestre National de France. Alors, et vous êtes membre d'un ensemble qui s'appelle Dissonance, qui est un nom intéressant parce qu'il ouvre la porte à la différence et éventuellement au rassemblement. Alors, quels étaient les choix qui ont amené, qui vous ont amené, Héloïse Luzzatti, à faire un choix musical? Déjà au départ, vous aviez toutes les raisons du monde pour être musicienne?
Est-ce qu'on a des raisons, je sais pas, mais des envies, en tout cas, toute petite, j'ai eu beaucoup de joie à apprendre le violoncelle.
Ça a été votre instrument de base, vous avez démarré?
Oui. Premier instrument, et seul d'ailleurs, que j'ai appris toute petite. Et ça, je ne l'ai pas vécu comme une contrainte en tant qu'enfant, mais vraiment comme une grande joie. Alors j'imagine que j'ai dû râler parfois pour travailler, mais ce n'est pas ce qui m'en est resté aujourd'hui que je suis plus grande. J'ai l'impression d'avoir toujours aimé follement le violoncelle.
Donc vous aviez ce goût pour cet instrument parce qu'il a une sonorité, une rotondité de musicale différente. La contrebasse d'orchestre est un instrument qui a un peu de mal à trouver une place. Celui du jazz est plus marqué. Le violon est très connu. Et le violoncelle est un bel instrument qui donne d'emblée une dimension chaleureuse à la musique qui est jouée.
Alors oui, tout à fait. Je pense que quand j'étais petite, j'aimais aussi le fait qu'il soit grand. Et puis bien sûr, le son. Et en fait, maintenant que je suis adulte, je me rends compte aussi que ce que j'aimais, c'était aussi sa place.
C'est-à-dire qu'on le tient à bras-le-corps, pratiquement.
Et puis sa place dans la musique de chambre, c'est-à-dire qu'il
est dans la musique
fois
de chambre,
un instrument de chant, mais aussi un instrument d'accompagnement, et que j'aime bien cette dualité, pas forcément le bon mot, mais le fait que ce ne soit pas qu'un instrument chanteur, mais aussi un instrument de lien, un instrument d'accompagnement, parfois pur. Et c'est quelque chose que j'aime beaucoup, qui bien sûr le son. Ça, c'est évident, j'adore le son du violoncelle.
Bah, je pense qu'on peut difficilement, à moins d'avoir une oreille complètement malade, mais de ne pas aimer le son du violoncelle. Parce que, en fait, c'est un son qui, d'emblée, nous met dans une situation de bien-être. Avant même d'avoir à comprendre la musique qui se déroule, le son lui-même nous enveloppe avec béatitude et bonhomie. Voilà.
Tout à fait.
Alors, vous avez pratiqué cet instrument à travers différents groupes musicaux, des orchestres des musiques de chambre plus ou moins importants. Vous pouvez nous en parler un petit peu ?
Oui, j'ai eu un parcours finalement assez classique, hein. J'ai fait le Conservatoire de Paris, puis après j'ai fait dans mes jeunes années beaucoup de, à la fois de musique de chambre quand j'étais étudiante, mais aussi assez rapidement j'ai travaillé avec des orchestres comme l'Orchestre National de France ou l'Orchestre de l'Opéra de Paris avec lequel j'ai beaucoup travaillé, et puis j'ai participé pendant de longues années à l'ensemble Les Dissonances, qui est malheureusement un ensemble qui s'est arrêté il y a quelques temps, mais qui m'a beaucoup c'est une version je trouve chambriste dans l'état d'esprit d'une manière de faire de l'orchestre différemment qui m'a énormément apporté à la fois en tant que musicienne mais aussi humainement. C'est vraiment un ensemble qui est assez incroyable et qui a une place importante dans ma vie de musicienne. Et puis il y a quelques années, j'ai arrêté de participer à des projets orchestraux pour me consacrer à ce que je fais aujourd'hui, c'est-à-dire diriger la Cité des compositrices et faire beaucoup de recherches pour retrouver des partitions qui ne sont pas identifiées.
Ah oui, on va y venir, mais dans un autre temps, j'aimerais bien savoir pour vous votre expérience de l'orchestre et votre expérience de la musique de chambre, qui est un groupe plus réduit de musiciens, plus intime. Pour vous, c'était très différent? Vous aviez des sensations très différentes d'un cas comme dans l'autre?
Oui, forcément, par le nom, par le répertoire surtout, qui entre l'opéra, la symphonie, le concerto, on n'est pas du tout... au même endroit, et pour autant on reste toujours un musicien alerte dans un cas comme dans l'autre, je veux dire à l'écoute de ce qui se passe, mais c'est vrai que la formation de chambre et la formation d'orchestre mobilisent pas exactement la même indépendance du musicien. Quand on est dans un pupitre de violoncelle, il faut à la fois être présent mais aussi très dans une souplesse pour être dans un son de pupitre, ce qui n'est pas le cas quand on est seul violoncelliste en musique de chambre, à faire un peu la même chose, c'est-à-dire essayer de travailler à avoir un son qui se mélange à celui de ses partenaires, mais c'est quand même assez différent. C'est pas le même rapport à l'autre quand il est l'autre et deux, trois ou quatre personnes, et quand il est plusieurs dizaines de personnes, c'est vraiment un autre rapport à l'autre.
Sous la direction d'un chef qui est le maître absolu de la musique.
Alors oui, après moi j'avoue, j'ai toujours, même si je suis très admirative de beaucoup de chefs, j'aime aussi l'idée qu'on est on a son autonomie intérieure au sein d'un orchestre et une forme de grande liberté malgré le fait que quelqu'un dirige un orchestre. Je pense que c'est important de continuer à être libre à l'intérieur de soi.
Mais c'est jouable, enfin je veux dire, on arrive à avoir cette liberté, cette autonomie dans un orchestre composé quand même de plusieurs dizaines de musiciens, et puis
quand on connaît très bien une partition, c'est-à-dire pas que sa partie, mais également la partie des autres. C'est une des particularités des Dissonances, ça d'ailleurs, qui mettait à disposition des musiciens les scores, c'est-à-dire toute la partition comme les chefs d'orchestre, en fait, toutes les parties de tout le monde, ce qui est vraiment très malin parce que ça permet de pas être passif par rapport à une partition, ah oui. mais acteur de cette partition. Et en fait, plus on connaît toute une partition, plus on est libre à l'intérieur de sa propre partie.
Bah, ce grand parcours qui a été le vôtre, à un moment donné, arrive, vous l'aviez dit tout à l'heure, aujourd'hui, vous êtes dans une autre démarche qui a fait que vous êtes posé la question des femmes qui est posée d'une façon plus large aujourd'hui, de leur place, de leur reconnaissance en tant qu'individu complet et pas simplement partiel pour un certain nombre d'activités. Et puis vous vous êtes intéressé à toutes ces compositrices et musiciennes qui, d'un seul coup, ont disparu. C'est comme les femmes peintres, comme les femmes autres, qui, d'un seul coup, peuvent ressortir dès aujourd'hui, parce qu'il y a des femmes, souvent, qui s'intéressent à elles et qui mènent de grands efforts pour les faire vivre. Alors, vous, comment ça s'est déclenché, ce rapport avec ces femmes musiciennes, compositrices qui se sont perdues dans le temps.
Alors, c'est un questionnement qui est venu de manière assez diffuse, je dirais à la fin de mes études, enfin quand j'étais à la fin du conservatoire, mais c'est pas un matin je me lève et je me dis waouh, elles sont passées où. Mais c'est petit à petit beaucoup de curiosité sur le répertoire en général me concernant. J'ai toujours eu un peu la sensation qu'on jouait tous tout le temps la même chose et qu'il y avait ce poids du grand répertoire qui était un peu sclérosant, en tout cas pour moi, de voir jouer telle œuvre comme ci ou comme ça, parce qu'un tel avait décidé que ça se jouait comme ci ou comme ça, et avec du coup des étudiants qui jouent tous tout le temps ou quasiment la même chose, qui a un parcours type du musicien, et puis dans lequel je me reconnaissais pas forcément, parce que je me disais qu'est-ce que j'ai à apporter moi à l'arpégione de Schubert, ben cela je pas grand chose, hein, je vois pas, enfin il y a tellement de choses qui ont été dites faites, et puis et d'ailleurs, femmes et hommes confondus, cette conscience très forte qu'il y a quand même beaucoup de musique qu'on ne joue jamais. Et puis, particulièrement, effectivement, celle des femmes, où je me suis retrouvée à 25-30 ans à avoir jamais joué l'œuvre d'une femme, au conservatoire ou même dans mes concerts, où il n'y avait pas d'espace pour ces femmes, et puis de manière assez... automatique dans l'histoire de la musique, elles ont été systématiquement effacées. Donc du coup, il n'y a pas de tradition de l'apprentissage de ces œuvres par les étudiants et par les professionnels, parce qu'en fait, elles n'ont pas fait partie des canons de la musique.
Mmh. Et si on fait, avant d'aller plus avant dans la démarche qui est la vôtre, une comparaison entre ces femmes qui, dans l'histoire, ont eu un temps de reconnaissance partielle, et puis ont disparu, puis les œuvres n'ont pas été reprises, et des femmes qui sont aujourd'hui musiciennes et compositrices, est-ce qu'il y a une différence aujourd'hui ? Est-ce que les femmes compositrices qui proposent des œuvres sont plus reconnues, plus jouées ?
Alors, je trouve très difficile de faire des comparaisons entre la musique contemporaine savante et une musique patrimoniale, parce que la place de la musique contemporaine en général aujourd'hui est quand même complexe, que ce soit pour les hommes ou pour les femmes. Si on prend, la musique du début du XXe siècle en France, c'était la musique. Alors, soit il y avait la musique légère et de la musique moins, et de la musique plus savante. Mais après tout, c'était quand même la musique que tout le monde écoutait. Aujourd'hui, il y a tellement de genres de musique à côté des musiques savantes que c'est quand même très compliqué, je trouve, sa place dans la société est tellement plus le même en général qu'en fait, je trouve ça compliqué. Après, une fois que j'ai dit ça, j'ai pas complètement répondu à votre question. Et je pense qu'il y a quelque chose d'assez ambivalent sur la place des compositrices contemporaines. Dans le sens où c'est possible de jouer des œuvres de femmes vivantes. Elles ont des sites internet, leurs œuvres sont gravées. On a moins la problématique de manuscrits perdus, comme ça peut être le cas dans le champ de la musique patrimoniale. Et effectivement, si on veut, on peut jouer des femmes vivantes aujourd'hui. Après, il y a toute une histoire d'histoire qui fait que, bah oui, il y a encore moins d'étudiantes en composition que d'étudiants. Dans les chiffres au CNSM de Paris, bah, il y a moins de femmes que d'hommes. Donc, il y a quand même une marque de toute l'histoire qui reste présente. Pour autant, je pense que socialement, les programmateurs ont bien conscience de la nécessité de faire très attention à programmer autant de femmes que d'hommes. Mais ça se fait pas encore. Ça se fait parfois, pas pour toutes et tous, mais pour certains programmateurs, ça se fait un peu à coup de carotte aux subventions pour programmer plus de femmes. C'est pas encore complètement naturel pour tout le monde.
Non, c'est tellement ancré dans l'esprit des uns et des autres que, au fond, on peut ne, sans être malveillant, on peut ne pas y penser, en fait.
Oui, et puis se dire, parfois, on me dit, mais moi, ce qui compte pour moi, c'est le talent. Ça m'est égal que ce soit un homme ou une femme, le génie n'a pas de sexe. Et j'entends cet argument, mais in fine, si on ne fait jamais attention à ça, ben, on n'avance pas, parce qu'il y a quand même... Voilà, une histoire, une absence de modèle féminin dans la création musicale qui fait que bah, si on ne soutient, on ne pousse pas les femmes et les jeunes femmes à y croire, à s'ancrer petit à petit dans une histoire qui est en train de se compléter, bah, en fait, elles vont continuer d'être absentes parce qu'en fait, on le voit, toutes les générations de compositrices ont toujours eu la sensation que c'était une première génération de compositrices. Et on le voit à toutes les époques, par cette absence d'histoire et de modèle féminin. Et donc, la génération d'aujourd'hui peut ne pas échapper à cet effacement, c'est-à-dire avoir une reconnaissance ponctuelle, mais pour autant ne pas s'inscrire dans l'histoire de la musique.
Sinon que les bouleversements de la société, c'est la craquure de ces structures sont peut-être un peu plus importants qu'elles n'ont pu l'être, et que finalement les...
Ben, c'est l'histoire qui le dira, ça. Oui, je crois que c'est difficile de... En fait, quand je vois le nombre de compositrices à succès dans la première moitié du XXe siècle et ce qu'il en reste aujourd'hui,
vous avez des doutes.
J'ai envie de dire, on verra dans 50 ans, on verra dans 100 ans, je ne sais pas.
Et puis peut-être que les choses aussi vont très vite, c'est-à-dire que le renouvellement des productions, des genres, des programmateurs qui sont dans une société suraccélérée font aussi qu'on n'a peut-être pas le temps en tant que femme qui se trouve déjà avec le fait d'être une femme, donc pas prioritaire systématiquement. Peut-être aussi le renouvellement oblige à, si on n'est pas là au moment, ça y est, on est déjà absorbé par le temps qui passe.
Oui, il y a un rapport au temps qui est aussi très différent, c'est vrai.
Alors, pour ce choix que vous avez opéré d'aller remettre en vie des compositions, des œuvres de femmes du temps passé, vous avez aussi créé un label qui s'appelle La Boîte à Pépites.
Oui, exactement. Avant d'être un label, c'est une chaîne de vidéos avec laquelle on a produit, un peu plus de 130 vidéos en 5 ans, qui sont des formats courts et qui permettent de faire découvrir à la fois des œuvres, mais aussi des vies de compositrices, de les réinscrire dans une histoire partagée. Et effectivement, cette chaîne vidéo est devenue un label discographique en 2022 et avec lequel on fait des monographies, des œuvres, des disques et des coffrets de disques, souvent il y en a plusieurs, où on se consacre sur une œuvre, une vie de l'œuvre en général de une compositrice.
Et cette boîte, ces vidéos donnent quoi? Parce que c'est quand même important, une centaine de vidéos. Et C'est un temps d'échange, c'est un temps musical, c'est un temps intellectuel, enfin, comment...
Et alors, ces vidéos, il y a plusieurs formats différents. Il y a à la fois des documentaires sur les vies de ces compositrices qui sont faits en dessin animé, mais pas du tout du dessin animé d'enfants. C'est des documentaires qui peuvent bien sûr être vus par des enfants, mais qui sont complètement accessibles à n'importe qui. Et puis, il y a un format qu'on a fait là pendant 5 ans, qui est un calendrier de l'Avent musical, comme un festival d'hiver découpé en 25 jours, où chaque jour on publie une vidéo. La vidéo commence avec 1 minute de la présentation de la compositrice à la première personne. Je raconte sa vie en disant « je m'appelle ». Et en 1 minute, j'ai raconté, on va dire, les éléments marquants de sa vie. Et ça enchaîne avec une œuvre assez courte de cette même compositrice. Donc, en 25 jours, on a découvert 25 compositrices. Et c'est un projet très grand public, très facile à découvrir. Et en fait, maintenant, au bout de 5 ans de calendrier de l'Avent, les gens qui le suivent attendent impatiemment le 1er décembre et n'en perdent pas une vidéo, parce qu'en fait, c'est assez rigolo d'avoir chaque jour à 18h son petit cadeau en ligne à découvrir. Et c'est vrai que ça ouvre un champ d'un nombre de compositrices, parce que du coup, on en a fait plus de 120 en 5 ans.
Enfin,
à l'aune de ce qui existe, elles sont des milliers, c'est encore très peu, mais on peut se dire que si le projet continue, ça enrichit quand même beaucoup le champ de connaissances possibles.
Mais dans ces présentations, ce n'est qu'une présentation, je dirais, de l'histoire, du talent, de leur aventure personnelle à ces femmes, ou est-ce qu'il y a une part musicale qui permet d'avoir une certaine mesure de leur travail de compositrice ?
Vous voulez dire à l'intérieur de ces projets de vidéo ?
Oui, oui.
Alors, bien sûr, comme c'est des pièces courtes, ça peut donner à penser que les femmes ont écrit des petites pièces. C'est faux, et bien sûr, le projet est de donner envie d'en savoir plus. C'est pas du tout exhaustif de présenter une petite pièce d'une comme ça, d'un compositeur ou d'une compositrice, mais pour autant, dans la biographie, quand elle a écrit des symphonies, des pièces pour orchestre, je m'emploie à le dire pour qu'on prenne un peu la mesure de tout ce qu'elle a composé. Et c'est un premier pas pour donner envie d'en savoir plus et d'écouter plus et de découvrir plus de musique. Mais bien sûr, ça peut avoir un aspect un peu réducteur comme ça. C'est bien sûr pas le but.
Et maintenant qu'il y a quand même un temps passé suffisamment long, l'intérêt que les gens peuvent avoir à la fois pour la qualité de vos productions vidéo, mais aussi pour la découverte d'espaces qui étaient totalement inconnus jusque-là, est important. Les retours que vous en avez sont forts, enthousiasmants.
Alors, c'est une question qui est pas évidente, parce que forcément, les retours qu'on a vont être enthousiastes. Les gens qui en pensent pas du bien, en général, sont moins nombreux à le dire que ceux qui en pensent du bien. Donc moi, ce que je reçois comme retour, c'est plutôt positif. La presse, de plus en plus, suit ce travail avec bienveillance et intérêt. Et la presse est très importante, parce que c'est ce qui fait
bien
que
sûr.
Ça reste. Donc c'est crucial et fondamental que les journalistes fassent, qu'on dépasse l'idée de parler juste des compositrices, mais qu'on puisse faire des papiers de fond sur les unes ou les autres. Et ça, je trouve que c'est vraiment dans un développement vraiment très intéressant. Au niveau du public, alors nous, petit à petit, on a un noyau de public qui grossit, qui s'intéresse à notre travail. Pour autant, ramener les gens dans une salle de concert pour écouter des œuvres qu'ils ne connaissent pas reste quand même quelque chose de difficile, ouais. Je trouve. C'est toujours plus facile d'aller jouer du Mozart et du Vivaldi pour remplir une salle que de jouer du Jeanneleu et du Jeanne-Vieux, bien sûr.
Il y a peut-être le phénomène de la facilité d'usage des outils contemporains, d'Internet. Il suffit de se connecter et c'est fait. Aller à un concert, ça veut dire se sortir de chez soi.
Ça, en général, bien sûr. Mais on aime aller écouter ce qu'on connaît. Oui. Ça reste
Oui, bien sûr que ça reste. Mais ça peut aussi en freiner un certain nombre qui ne pensent pas que ça soit utile ou que c'est un peu compliqué ou ils n'ont pas le temps. Il faut payer. Bon. Jeanne Leleu. Et pourquoi Jeanne Leleux, comment vous l'avez découverte, puisqu'en fait elle est assez presque contemporaine. Jeanne Leleux, elle est née en 1898, mais elle est décédée au XXe siècle, en 79. Donc c'est pas tout près, mais c'est pas tout loin non plus.
Même très proche en histoire d'histoire.
Oui, même très proche. Ouais. Comment vous avez découvert, par hasard ou...
Alors, pas complètement par hasard. Elle est follement absente hein, de l'histoire discographique notamment, mais de l'histoire en général. C'est-à-dire que vraiment, c'est une grande, je trouve une très grande effacée. En fait, c'est en travaillant on travaille avec la Bibliothèque nationale de France sur des concerts qu'on programme à partir des fonds de la BNF. Et sur ce travail d'épluchage des fonds de la BNF, Jeanne Leleux est apparue assez rapidement, parce qu'aussi je connaissais son nom et son existence, mais je connaissais pas du tout son œuvre. Et c'est en déchiffrant des partitions pour faire de la programmation en collaboration avec la Bibliothèque nationale qu'on a déchiffré son quatuor avec piano, point de départ de tout le reste de nos découvertes sur Jeanne Leleux, qui est devenue pour nous quelqu'un de très important.
Et donc, vous avez abordé Jeanne Leleux pas simplement à travers, je dirais, cette information découverte de la vidéo, mais aussi par un travail musical sur ses propres œuvres.
Sur ses propres œuvres et sur sa vie aussi, parce que dans ces projets discographiques qu'on mène avec la boîte à pépites, la partie biographique des livrets, on fait des gros livrets de 60-80 pages, ça dépend, avec des illustrations. Enfin, il y a un vrai travail de fond fait sur les biographies de ces compositrices. Et en fait, Jeanne Leleux, on n'avait pas de biographie, donc c'est à la fois un travail qui a été fait sur le fait d'identifier des œuvres. Et puis en plus, ça n'est que on a enregistré qu'un volume 1. Derrière, il y a plein d'autres projets qui lui seront consacrés à venir tranquillement, parce qu'il y a un travail de fond encore assez important. Mais oui, on a travaillé à la fois sur sa vie autant que sur ses œuvres.
Et Jeanne Leleux, on pourrait la situer comment dans la musique qui s'est produite à la même époque qu'elle ?
Ouais, alors Jeanne Leleux, elle a créé Ma mère loi de Ravel. Mmh. Elle a été très encouragée par Maurice Ravel, toute jeune femme. Elle avait 12-13 ans. Et elle s'inscrit pleinement dans cette couleur de française du début du XXe siècle. Elle était pleinement dans à la fois dans son temps et dans son pays, avec beaucoup d'inspiration debussiste aussi.
Et donc c'est la raison pour laquelle à la fois vous présentez à Saint-Céré une œuvre de Jeanne Leleux, le Six sonnets de Michel-Ange, et puis en même temps des œuvres de Ravel.
Bah, du coup, on fait un extrait de Ma mère loi pour l'histoire, parce que l'histoire est belle. Et que on trouvait ça joli, c'est un petit clin d'œil, mais en fait, on joue 5 minutes de Ravel dans le concert par rapport à tout le reste du programme qui est consacré.
C'est juste un clin d'œil.
Voilà.
Et comment avez-vous, puisque vous êtes plusieurs à intervenir par rapport à ce temps de Jeanne Leleux? Il y a Marie-Laure Garnier, Manon Galli, Léa Enino, Héloïse Luzzati, vous, et Célia Omnetto Ben-Saïd.
Ben-Saïd.
Ce sont des gens avec qui vous avez l'habitude de travailler, ou
oui,
vous avez composé un orchestre pour l'occasion?
Non, c'est des collègues proches avec qui on travaille. On travaille très fréquemment.
Donc vous connaissez bien et vous avez l'habitude de partager vos expériences.
Tout à fait, on est très proches. Et Léa et Nino a participé grandement à tout le travail aussi biographique et de recherche sur Jeanne Leleux.
D'accord. Et votre soprano, c'est une, une femme qui a aussi eu des retours importants dans sa carrière de brillance, de succès, une virtuose. C'est quelqu'un avec qui vous avez déjà travaillé ou...
Oui, beaucoup. Hein. On travaille ensemble depuis des années et elle a participé à plusieurs projets discographiques et elle est présente dans beaucoup des projets qu'on fait ensemble. Elle a enregistré les six sonnettes Michel-Ange de Jeanne Leleu dans le disque de la boîte à pépites.
D'accord. Et Saint-Céré, le festival, c'est la première fois que vous y venez ?
Oui, c'est la première fois et je suis extrêmement heureuse de venir découvrir ce festival.
Bien, c'est un festival qui a quand même de longues années derrière lui, qui a varié dans sa propre histoire. Vous allez pouvoir jouer dans un lieu tout à fait un très beau lieu, à l'abbatiale de Beaulieu-sur-Dordogne. Ce sera le lundi 4 août à 21h. Oui. Et c'est aussi important que Véronique Do, qui est la directrice de Scénographe, ait pensé à programmer votre approche de la musique et des compositrices dans un temps où on pourrait aller vers des facilités pour remplir les salles, quoi.
Oui, ben c'est pour ça que je disais tout à l'heure, c'est un parti pris. Qui est courageux aujourd'hui, je trouve, encore pour les programmateurs de faire confiance. Alors moi j'en suis très heureuse et je pense que il faut le faire, mais comme c'est pas toujours évident d'aller écouter ce qu'on ne connaît pas, ça peut rendre frileux les programmateurs et j'espère que tous les gens qui nous écoutent aujourd'hui auront envie de venir découvrir les concerts qu'on fait à Saint-Céré qui sont consacrés et à Jeanne Leleu et à Jeanne Vieux aussi le 2 août parce que ça mérite vraiment d'être c'est de la musique extraordinaire qui mérite d'être découverte.
Bien écoutez, Héloïse Luzzatti, je vous remercie de m'avoir accordé du temps, un temps qui doit être court, très parcellisé en ce moment, peut-être.
C'est
pas faux. Et je vous souhaite une excellente journée, et puis vraisemblablement à se croiser à l'abbatiale de Beaulieu pour Jeanne Leleu.
Avec joie, je vous remercie beaucoup.
Merci beaucoup.